Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tu as 0 points, c'est qu'il va falloir prendre des points.
Il faut prendre 3 points, mais chaque match vaut 3 points.
C'est capital, les 3 points qui sont en jeu demain.
Pour nous, ça reste un match à 3 points.
C'est plus que 3 points ce soir?
Bah non, c'est 3 points.
On a pris les 3 points. C'était bien pour nous parce qu'on a pris 3 points ce soir. Après, prendre les 3 points, c'est magnifique pour nous. On est contents parce qu'on a pris les 3 points ce soir.
La coupe concerne tout le monde. On est surtout contents d'avoir pris ces 3 points.
Mais on mérite les 3 points.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
On est ensemble sur RMC en direct jusqu'à minuit. Le programme de la soirée, le débrief de la deuxième journée de Ligue 2. Saint-Etienne qui rit, Nantes qui pleure. On va parler également du trophée des champions. On a J-2 du PSG face à Lens. Marseille qui s'incline contre l'Atlético. Les supporters qui prennent une nouvelle fois en grippe. Balerdi, Genesio qui change de capitaine, contraint et forcé. Et puis toutes les informations Mercato, ils sont là en pleine forme. Bonsoir Maxime Chanot.
Salut Elton, salut Karine, salut à tous.
Et donc Elton Mokolo, salut Elton.
Salut Karine, salut Maxime.
Tout va bien messieurs?
Écoute, ça va, oui, ça va.
Oh, il fait très chaud par contre, hein. Ouais. C'est très chaud.
C'est atroce.
Ah, là, c'est le dernier jour visiblement.
Ah, oui, mais ça, on vous dit ça tous les jours, Elton, je n'y crois plus.
Mais sinon, tout va bien. Tout va
mais
bien,
ça va, on prend du plaisir limite dans la souffrance.
Ouais. Non, alors, parle pour toi, Elton, parce que franchement, tu
ne savais pas aimer. Ah oui, tu préfères le froid que le chaud?
Ah oui, moi, je ne supporte pas la chaleur. Ah non, non, mais c'est terrible. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je suis sorti 5 minutes pour déposer un colis et je me suis figé dans la rue tellement il faisait chaud et tellement il n'y avait pas d'air.
Ah ouais, et la baignade dans la Seine, non, tu n'y as pas pensé?
Ah non, non, franchement, je ne veux pas finir aux urgences. Vraiment, je laisse ça aux courageux ou aux fondus, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, même pas un orteil, j'y mettrai. Donc, franchement, il fait extrêmement chaud et on attend que ça s'arrête. Elton nous a annoncé des bonnes nouvelles. Il y a un club qui a très, très chaud, c'est Nantes, messieurs. Catastrophe, les Nantais battus après 2 journées. Il y a 0 point pour les Nantais. Ça avait mal commencé la semaine dernière face au Red Star. Et là, le scénario catastrophe, défaite 2-1 face à Laval. Et le but a été marqué dans les ultimes secondes pour les Tangos. Du côté de Saint-Etienne, tout va bien. Yann Catro, c'est la rigolade. 3-1, victoire des Verts face à Clermont. Saint-Etienne qui est en tête du classement. Annecy également compte 6 points. 2-0 face à Rodez. Guingamp qui retrouve des couleurs. Première victoire depuis le 13 mars, messieurs. 1-0 face à Boulogne-sur-Mer. Pau qui gagne 1-0 à Dijon. 0-0 entre Grenoble et Metz. Il y a eu également la victoire de Montpellier sur la pelouse de Nancy. Pas de but entre le Red Star et Sochaux. Et un match spectaculaire entre Reims et Dunkerque. 3-3. Nicolas Uzay qui doit avoir quelques migraines parce que Reims menait. Et finalement, il y a eu un pénalty à la 97e pour Thomas Robinet, le Dunkerquois. Et Dunkerque donc qui arrache le match nul. Reims qui avait été réduit à 10. Mais en tout cas, les Rémois doivent l'avoir mauvaise. Messieurs, c'est évident, on va parler en priorité des deux monstres du championnat de France. Saint-Etienne, tout va bien. Et Nantes, c'est la catastrophe. Début de Michel Derzakarian, très compliqué.
Tout est une question de dynamique. Tu commences par Nantes qui n'arrive pas à stopper l'hémorragie qui a eu depuis le début de l'année 2026, entre sa descente et sa nouvelle réalité, parce qu'il faut parler de réalité, celle de la Ligue 2, où ça va être l'une des équipes attendues, si ce n'est l'équipe la plus attendue à partir du moment où elle est descendue de la Ligue 1. Et là, forcément, deux défaites, ça commence à faire désordre pour une équipe qui a l'ambition de remonter rapidement. Et donc, il va falloir justement stopper cette hémorragie au plus vite.
Ouais, deux clubs qui sont aux antipodes du classement en Ligue 2. Elton l'a bien résumé. On en avait parlé de Saint-Etienne il y a quelques jours en disant que c'était un peu le mastodonte de cette Ligue 2 par rapport au budget, par rapport aux joueurs. Et ils sont arrivés par exemple à garder un joueur comme Cardona, des joueurs comme Bernauer d'ailleurs, qui est un très très bon défenseur central que j'aime beaucoup. Et derrière, évidemment, ça fonctionne bien. T'as un public qui est incroyable et ça fait quelques années qu'on dit déjà que Saint-Etienne devrait retrouver la Ligue 1. Est-ce que ça sera la bonne année? Je sais pas. En tout cas, ça risque d'être compliqué pour le FC Nantes. Et le paradoxe avec le FC Nantes, c'est qu'ils ont quand même gardé pas mal de joueurs qui normalement avaient le niveau, en tout cas pour jouer en Ligue 1. Alors je sais pas si on peut appeler ça avoir le niveau parce qu'ils sont descendus, mais en tout cas quand je vois le petit Hilal Tati par exemple qui était une valeur sûre l'année dernière, bon, qui fait l'erreur d'ailleurs sur le deuxième but là, avec cette passe dans l'axe là qui permet à Laval de marquer ce deuxième but. Guirassy, j'avais parlé d'Ibrahima Sissoko, pardon, Johan Le Penon, enfin tu vois, il y a quand même un groupe de joueurs qui a quand même un
ça
vécu.
Ça peut jouer le samedi en multiplex Ligue 1.
Voilà, évidemment, de toute façon Nantes ça peut être peut-être qu'en multiplex en Ligue 1, mais en tout cas qui a un vécu Ligue 1. On pensait que garder justement ces valeurs sûres, même si ça reste des jeunes joueurs, c'était peut-être un gage de réussite pour remonter en Ligue 1. Et puis surtout, tu récupères Der Zakarian, l'entraîneur qui a quand même l'expérience déjà du club, parce que c'est pas facile d'être entraîneur du FC Nantes. On sait un peu comment c'est géré de ce côté-là, et surtout un entraîneur qui connaît bien la Ligue 2.
Donc, et voilà. Les montées, c'est lui qui les a fait monter deux fois.
Écoute, on est qu'au début du championnat. Elton l'a dit, je pense que Nantes a pris un gros coup sur la tête l'année dernière avec cette descente, avec cette saison cauchemardesque. Voilà, va pas falloir qu'il traîne trop parce que le train va vite partir. Et c'est vrai que là, en étant dernier de Ligue 2, ça fait tâche. Ça
et
fait
attention, tâche pour c'est le piège pour moi, parce qu'on a parlé de Nantes et sa réalité Ligue 1. Là, il va falloir qu'ils apprennent, ou plutôt qu'ils réapprennent, à redevenir une équipe de Ligue 2. Parce que là, c'est davantage de combats, c'est l'étiquette de l'équipe à battre, entre guillemets. Et donc forcément, il faut oublier notamment cette réalité Ligue 1 et se battre notamment comme une équipe de Ligue 2.
Ouais, avec du côté de Laval, juste un petit aparté, parce que c'était Laval-Nantes, le retour de Francis Coquelin.
Oui, voilà. Et le pauvre, malheureusement, ouais. D'ailleurs, il est sorti sur blessure. Exactement. Sur civière. On rappelle qu'il y a eu un choc entre Coquelin et Younoussa. Les deux joueurs ont été évacués. Le match a été interrompu pendant 8 minutes et on espère avoir des bonnes nouvelles. Côté de Coquelin, on nous dit qu'il est parti en ambulance et qu'il était conscient mais marqué au visage. Et à la mi-temps, Younoussa, lui, était encore présent au stade et pris en charge par les soigneurs. On va accueillir Alexandre, supporter nantais au 32-16 sur RMC. Bonsoir Alex.
Bonsoir à tous.
Comment bonsoir allez-vous Alexandre.
Nous, ça va très bien.
Et toi plutôt.
On va bien mieux que le FC Nantes.
Content de t'avoir à l'antenne. Franchement, il y a un an de ça, jour pour jour, t'avais dit que t'en descendrais en Ligue 2 et t'as eu raison.
C'est ça.
On l'a eu au téléphone après un match. Exactement.
Maxime, c'est tombé ça, dessus c'est après un match. Précurseurs. Ils n'ont pas toujours raison tout de suite.
Exactement. Et là, ce soir, je vois le match et je me dis, mais en fait, c'est simple. Tout ce qu'il ne faut pas faire, vous regardez Nantes et ils le font très très bien. Reprendre un entraîneur qui n'a absolument plus de niveau pour entraîner une nouvelle génération qui est totalement incontrôlable, on le prend.
Alors toi, après deux journées, c'est acté, Der Zakarian, c'est une mauvaise idée.
Ah oui, mais oui, mais totalement. Pourquoi? Mais parce que déjà, de un, personne ne le voulait. Voilà. Pour deux, il peut revenir trois fois, c'est non, ça a pu marcher. Il est déjà en conflit, déjà, la base avec la direction. On fait 35 millions de ventes cet été pour recruter des joueurs qui sont pas fou à la base. Der Zakarian, c'est un entraîneur qui aime des mecs solides de plus de 30 ans, des grands gaillards. On se rend compte que techniquement, ça ne marche pas. Le premier match, c'est la défaite de Der Zakarian. Tactiquement, on a été mauvais à domicile contre le Red Star. Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a absolument plus rien qui fonctionne dans ce club. C'est normal qu'on ait perdu nos deux premiers matchs, on a fait 35 millions de ventes. Attends, je vais continuer.
Mais continue, mais après je vais pas, quand même, pas, Alexandre, calme-toi. Voilà.
On est passé devant la DNCG, on nous a dit c'est bon Nantes, les feux sont au vert, vous n'avez pas besoin de vendre. On a vendu pour 35 millions, c'est normal que Kabine soit parti. On vend, on ne recrute rien. Il y a rien qui est mis en place pour recruter l'après, les ventes. Il y a rien. Ça fait 10 ans que ça dure. On a une direction qui est là à la ramasse.
Alex, je comprends ton désarroi, mais j'ai une question quand même. Le deuxième but, c'est une énorme boulette de Tati qui rate complètement sa passe et qui la donne. C'est une offrande pour Laval. Là, Michel Der Zakarian, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quand il est sur son banc, à part s'arracher les derniers cheveux qu'il reste?
Enfin, ça reste une. C'est pas une péripétie, mais ça reste un fait isolé.
Non, mais le 2-1, c'est à l'ultime seconde du match, une offrande. Je veux dire, Der Zakarian, là, il y est pour rien. Le pauvre Tati, il est fautif.
Karine, tu as entièrement raison. Mais Tati, on s'en rend bien compte que ça fait un an que Tati est le joueur, même s'il a 17-18 ans, il nous coûte un but par match. Mm-hmm. Même quand il était en Ligue 1.
Et rappelle-toi, je te l'avais dit l'année dernière, Alex.
Il nous coûte un but par match.
Tu t'en souviens ou pas, quand j'avais justement mis en avant la pauvreté technique d'Awaziem et de Tilal Tati, qui sont deux très bons défenseurs, en tout cas deux bons défenseurs, mais qui n'étaient pas en mesure de pouvoir ressortir le ballon derrière.
Davantage potentiel.
En tout cas, de pouvoir ressortir le ballon. ballon de derrière avec un Castro, rappelez-vous, hein, qui aimait justement jouer depuis son propre camp. Donc en fait, c'était ça. Je pense que le casting des joueurs qui avaient été recrutés pour le FC Nantes l'année dernière n'était juste pas cohérent par rapport au style de jeu que Castro voulait donner. Quand ils ont dégagé Castro et qu'ils ont pris Cantari, c'était complètement différent. C'est un entraîneur qui était plus, qui misait absolument plus sur le jeu vertical. Ça n'a pas fonctionné non plus. Donc aujourd'hui, en fait, c'est aussi la direction, c'est aussi la manière dont tu as recruté tes joueurs. Et là, pour revenir à cette saison-là, alors je l'ai dit, c'est très intelligent de pouvoir garder des joueurs qui ont une expérience de Ligue 1, mais Elton l'a aussi dit très, très justement, c'est qu'aujourd'hui, la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est différent. Tu as besoin d'expérience en Ligue 2. Et finalement, tu as gardé que des joueurs de potentiel pour pouvoir remonter dans un championnat où, tu l'as vu sur les dernières années, à part Toulouse, quand ils sont remontés très facilement, c'est un championnat de vieux briscards. C'est un championnat qui fait l'expérience.
Maxime, je ne te contredis pas. Tu as eu raison il y a un an. Aujourd'hui, je ne te contredis plus. Je suis d'accord avec toi. Mais comment se fait-il Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, tactiquement, il n'y a rien qui est proposé? On est une équipe qui a un plus gros budget que Laval. On se fait bouffer. À domicile, on a eu 25% de possession contre le Red Star. À domicile, contre le Red Star.
C'était très fort, la semaine dernière.
Après, c'est un premier match. Tu sais jamais un premier match comment l'équipe est prête. Mais oui, bien sûr. Après, Zakarian, tu l'as dit. Est-ce qu'il n'est pas déconnecté? Je pense que son dernier passage à Montpellier a été catastrophique. Hein, ça a quand même laissé des séquelles, notamment ce qui s'est passé avec Mamadou Sakho. C'est vrai que tu parlais de gestion de joueurs. Je ne sais pas si Zakarian est en mesure de pouvoir gérer les jeunes joueurs. La nouvelle génération.
Il n'est pas en mesure de gérer.
Et ça, je te rejoins.
Arrêtez avec vos avis définitifs sur les entraîneurs qui peuvent plus.
Non, mais c'est important.
Il y a quelques mois, on disait Comboiré, il n'a rien à faire en Ligue 1 et il a fait des merveilles avec le Paris FC.
Claude Puel à Nice, il n'a pas mis. Excuse-moi, Alex. Claude Puel à Nice, c'était dépassé. Ali Lodzic à Nantes, c'était dépassé. Il y a une réalité. Je suis d'accord avec toi.
Et Antoine Comboiré, il n'était pas dépassé.
Écoute, peut-être qu'il y avait des joueurs un peu plus intelligents.
Il n'a pas répondu à ce qu'il a dit. C'est terminé. Il faut arrêter avec les vieux briscards de Ligue 1. Les Puel, les Comboiré, les Derzakarian. C'est terminé.
Ah bah donc toi tu décides de cul à la retraite ou pas, Alexandre?
Non mais il a raison, c'est vrai.
Alexandre, je t'ai écouté attentivement, mais c'est plus global. C'est qu'aujourd'hui Nantes n'a pas encore la boussole. Nantes n'a pas la boussole pour attaquer cette saison de Ligue 2, parce que tu dois digérer une descente de Ligue 1 et attaquer et la boussole. Je parle de la direction, je parle du staff et je parle des joueurs. Tout ça doit se mettre en place parce que là, dans quelques minutes, on va parler de Saint-Etienne qui est précisément passé par là.
Parce que Saint-Etienne, ils ont des saisons, ils ont des échecs, et je pense qu'ils ont justement des échecs.
Ce qui manque à Nantes, à la différence de Saint-Etienne, c'est des cicatrices de la Ligue 2. Ils les ont pas encore.
Juste avec une boussole, comment se fait-il que si on avait juste une boussole, qu'on ait 25% de possession de ballon à domicile contre le Red Star?
Ça, je suis d'accord avec toi.
On a une boussole. Bonjour, allô, la boussole, elle est là. Or, on a 25% contre le Red Star. En ayant fait 35 millions de ventes, des mecs comme Leroux qui était réclamé à Monaco l'année dernière à 20 millions d'euros, qui est sur la touche, des mecs comme Le Penon qui vont peut-être partir à Nice, qui sont sur le banc de touche pour le premier match, vous trouvez ça normal? On va recruter un gardien Dupé qui a pas le niveau pour moi Ligue 2.
Dupé c'est un enfant de la maison, là, t'exagères.
Il est mignon, il est gentil. Ok, il est gentil, il est mignon. Super.
Pour moi, Dupé il a pas le niveau Ligue 2.
Mais Dupé n'a pas le niveau Ligue 2 comme Lopez n'a pas le niveau Ligue 1 l'année dernière.
Je vais te poser une question. Qui a le niveau Nantes, en fait? On va commencer.
Par contre, Alex, où est-ce que tu peux peut-être montrer des doutes? C'est sur Ganago aussi, hein, l'attaquant du FC Nantes qui est passé par la MLS du côté New England, qui a pas mis un pied devant l'autre en MLS, qui est revenu en Ligue 1 l'année dernière, ça a pas fonctionné, ça a pas l'air d'être plus cette saison. Voilà, non, je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça qu'il.
Mais Maxime, comment se fait-il que le directeur technique, l'entraîneur, ne se dise pas à un moment, ce mec-là, il n'a pas forcément le niveau, il faudrait peut-être.
Et en fait, elle est là, la problématique.
Recruter un mec à 2-3 millions.
La problématique, c'est le directeur sportif, c'est la manière de recruter tes joueurs et ton entraîneur, parce que je suis d'accord avec Derzakarian, qui est justement un mec qui connaît la Ligue 2, mais est-ce qu'il n'est peut-être pas dépassé?
Pour faire la transition
avec Saint-Etienne, aujourd'hui, Saint-Etienne, avec un jeune entraîneur, 4-0, écoute, peut-être que ça va fonctionner, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus visionnaire, c'est un mec qui est un peu plus justement capable de pouvoir s'adapter au football moderne. Et c'est vrai que des anciens, Ali Lodzic, Puel, et c'est peut-être le cas de Zakarian, et bien pour moi c'est dépassé. Ça fait longtemps que je me bats contre faire du neuf avec du réchauffé. Pour moi c'est juste pas possible.
Karim, Alexandre, toi tu aurais voulu Karim Ziani, c'est ça que tu dis?
Mais bien sûr. Non, pas Karim Ziani, Stéphane Ziani.
C'est qui Karim Ziani?
C'est un joueur.
Stéphane Ziani, qui a été un attaquant du FC Nantes, quand il est au 19. Putain, mais laissez-lui sa chance. Alors là, il était en concurrence avec Aristouille à l'époque. C'est soit lui, soit Aristouille. Laissez la chance à Ziali. Qu'est-ce qu'on va s'embêter avec Derzakarian? Non,
Alexandre, j'aime bien cette idée, j'aime bien cette histoire, mais en même temps, je parle d'un club. Bah, on a essayé Aristouille, on a essayé Castro, notamment au nom du projet football jeune, où on allait leur donner de la confiance.
Oui, Ahmed Kantari, il n'est pas vieux non plus. Hein,
Kantari. Il y a un dénominateur commun.
Il y a un adjoint, notamment, de Comboiré, en fait, c'est un dénominateur commun.
On a tout essayé. Et je ne te parle pas de l'émission de Laurent Ruquier. Et ça ne marche pas à Nantes.
Non, le dénominateur commun, c'est parce qu'ils font des paris. Les paris ne fonctionnent pas. Et
c'est précisément ce que je te dis.
Et puis derrière, ils essaient de refaire du neuf avec du réchauffé, avec un Derzakarian, ben voilà, et qui est peut-être dépassé, tout simplement.
Ils font 35 millions de ventes.
Mais c'est pas fini, hein.
Ouais, mais bon, tu sais très bien que c'est aussi la dynamique un petit peu du football professionnel en France. Les clubs ont besoin de ventes, qui t'a mis tellement d'argent, qui s'est dit que peut-être c'était aussi le moment de surfer, entre guillemets, sur tes valeurs marchandes. À Blin, notamment, je me mets à la place aussi du propriétaire, mais c'est malheureux. Mais ce qu'il y a de mieux pour le FC Nantes, mais ça fait X et X années qu'on dit, c'est que Kita laisse le club. Pour l'instant, il a rien à gagner à le laisser maintenant en Ligue 2.
Ah, mais ça, c'est qu'il devrait faire. Et qu'ils vendent les plus grosses valeurs marchandes, c'est normal. C'est de la Ligue 1, même la Ligue 2. On peut pas garder des joueurs qui ont une forte valeur marchande. C'est pour tout le monde pareil. C'est le coup d'aujourd'hui. Mais par contre, qu'on n'arrive pas à avancer en étant un club qui descend en Ligue 2, qui perd contre le Red Star et Laval avec 25% de possession à domicile contre le Red Star en première mi-temps, n'est pas normal.
Mais là où je te rejoins,
qu'on fasse du réchauffé avec Dupé, avec Derzakarian, c'est pas normal.
Ouais,
les mecs n'aient pas pris les devants auparavant. C'est pas normal.
Et c'est quand même très triste, hein, parce que quand tu vois le club, quand tu vois les infrastructures, le stade, les supporters, honnêtement, c'est un scandale. Il y a un potentiel à Nantes qui est incroyable. Et ils sont en train de creuser leur tombe année après année, saison après saison. Et je me mets à la place des supporters. Moi, je trouve que c'est scandaleux.
Mais supporters, j'ai 35 ans. Vous imaginez, je suis un vieux con. J'ai 35 ans. Ça y est, j'emmène mon fils de 7 ans au stade. Je l'ai emmené l'année dernière 6 fois au stade pour voir quoi? Pour voir quoi? Quand mon père, il m'emmenait au stade dans les années, au début des années 2000, je voyais quelque chose. Je mets mon fils voir au stade. Pourquoi? Pour voir des défaites. Il est content quand il y a un but, mais il sait pas ce qui se passe à la fin du match. C'est nul! C'est nul! Franchement. Et encore une fois, excusez-moi, je me permets, je suis à l'antenne, je vais le dire.
On a fait la finale de France-Nantes-Nice.
J'étais dans un bar à Nantes. Nantes est blindé de supporters. Il y a un moyen de faire quelque chose de dingue à Nantes. On a un engouement qui est totalement dingue à Nantes. Il suffit de peu pour que les supporters apportent beaucoup. Quand je vois déjà ce que la Tribune Loire peut apporter avec cette équipe de bras cassés et cette direction de bras cassés, vous imaginez, même vous, quand on voit ce qui se passe à la Tribune Loire est là pour le club, pour qui? Les mecs, ils chantent, ils se défoncent. Cette année, on a 10 000 abonnements, la Tribune Loire, elle est complète.
Oui, elle est complète
en Ligue 2. Et qu'est-ce que les mecs nous proposent? Qu'est-ce que la direction nous propose? De la merde.
Alexandre, je comprends ton désarroi, les gars, merci, j'ai pas pris
d'abonnement. Si vous imaginez, pour les mecs qui tapent un abonnement, qui tapent les déplacements à l'extérieur, le parkage à Laval, il était blindé à Laval, et on leur propose ça, vous trouvez ça normal, vous?
Alexandre, non. On a bien quel compris que ce vendredi 14 août, t'en avais gros sur la patate et on comprend gros, évidemment ton désarroi avec cette défaite.
Sinon, 2-0.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Je vous embrasse tous.
Merci d'avoir été avec nous. Courage. On sent que tu vas devoir digérer tout ça. C'est une saison compliquée et ces deux défaites. On rappelle que lors de la troisième journée, ça sera un match face à Grenoble. Dans quelques instants, on dira un petit mot de Saint-Etienne parce qu'il y a des supporters qui souffrent et il y a des supporters qui sont en train de retrouver le sourire. C'est les supporters des Verts. Donc, supporters de Saint-Etienne, on vous attend au 32-16 pour parler de cette deuxième victoire. 6 points en deux journées pour la nouvelle équipe de Yann Catro. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h20, on est en direct dans le studio Roland Courbis avec Maxime Chano, avec Elton Mokolo, avec vous sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424, mais aussi au 32-16, on vous attend. Et Jeff qui dit merci Alexandre. Alexandre, c'était notre auditeur précédent.
Fantastique. Il a donné le temps de l'émission.
Amoureux du FC Nantes et qui nous dit Alexandre, moi j'ai pris l'abonnement et j'ai même acheté un maillot. Eh bien, Jeff, courage. Yonfou, on est avec
bravo,
toi.
Bravo.
Et on sait qu'évidemment, il y a un public magnifique du du côté du FC Nantes, mais malheureusement, les saisons sont galères depuis un moment. On va parler d'un club qui a retrouvé le sourire, je vous le disais, c'est Saint-Étienne. Saint-Étienne qui a raté la montée l'an dernier, qui a changé des choses. Yann Catrault est arrivé, un jeune entraîneur pour faire plaisir à Maxime. Et donc, deux victoires en deux matchs ce soir. C'est Clermont qui a fait les frais de la furia stéphanoise. Victoire 3-1. Cardona, Ballot et Brum sont les buteurs de Saint-Étienne. Brum, c'est déjà le petit tube après deux matchs décisifs, buteur lors des deux rencontres. Là, on a l'impression que c'est une bonne pioche. Ah,
surtout le petit chouchou de Kevin Diaz, hein, lui qui arrive de Go Ahead Eagles. J'espère que je l'ai bien dit.
C'est très
avec
bien,
l'accent
c'est très,
hein,
très
bien. Directement depuis la Hollande, comme quoi, hein, y a des paris peuvent fonctionner quand t'as une bonne cellule de recrutement et que tu travailles bien. Et c'est le cas de Saint-Étienne, hein, qui trouve toujours des petits joueurs sympas. Et moi, je l'ai dit un peu plus tôt. Moi, j'ai aimé le fait aussi qu'ils aient gardé quand même leur cas, notamment Cardona, que j'aime beaucoup, bon, qui aurait peut-être pu avoir une meilleure carrière. C'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, en Cercle de Bruges, quand il était prêté par Monaco, il a fait une très belle saison. Je pensais vraiment qu'il allait faire une grande carrière. Bon, écoute, il a un petit peu plafonné. Pour l'instant, c'est de bon augure pour Saint-Etienne, puisqu'il a bien débuté. Ils ont toujours Stassin qui n'est pas parti. Il me semble qu'il est sur le point de quitter Saint-Etienne pour Hull City. Donc voilà, ils ont gardé le Cardinal et Bernauer, deux très bons défenseurs aussi. Donc voilà, après, on connaît Saint-Etienne, hein. Chaque année, on les met favoris et chaque année, ils ont un trou d'air. Ça a été le cas l'année dernière avant l'arrivée de Montagnier. Donc voilà, mais c'est clair que sur ce match-là, ils ont roulé sur Clermont parce qu'ils gagnaient 3-0. Hein, Clermont a réduit le score.
Et
à
d'ailleurs, sur la faute qui a amené le but de Clermont, il n'était pas content du tout. On l'a vu, hein, Yann Catrault, parce qu'il voulait
pareil,
effectivement
3-0,
chercher ce clean sheet, mais il y a eu une faute un petit peu grossière. Là,
et puis pour revenir, juste terminer par rapport à Saint-Étienne et les bons plans, les bons paris entre guillemets, l'arrivée de Catrault, un jeune entraîneur, hein, qui a été l'assistant d'Espirito, hein, Tottenham. Je sais qu'il a aussi été l'assistant de Benitez à Valence. Donc tu vois, c'est quand même un entraîneur qui arrive avec un CV. Alors être entraîneur assistant et être entraîneur principal, c'est deux métiers différents, mais pour l'instant, il est en train de nous montrer qu'il peut réussir le pari et faire remonter Saint-Étienne en Ligue 1, qui alors ne mérite pas forcément d'être en Ligue 1, mais quand tu vois un petit peu le club, on a parlé de Nantes, c'est pareil, Saint-Étienne, moi j'ai joué à Geoffroy Guichard, c'est exceptionnel, l'ambiance, les supporters, j'ai envie de voir ce club vraiment revenir dans l'élite du football français.
De toute façon, on connaît l'enjeu pour Saint-Étienne au-delà de la remontée, c'est d'être la locomotive et d'éviter un trou d'air qui t'éviterait une course sprint sur la fin de saison où tu devras aller chercher l'une des deux premières places pour la montée. Et là, sur les deux premières journées, on est sur une déclaration d'intention. Maintenant, il faut que ça continue comme ça, il faut que ça se perpétue pour que Saint-Etienne puisse être encore une fois la locomotive de la Ligue 2 après avoir raté de peu la montée face à l'OGC Nice.
Je vous rappelle donc qu'il y a deux équipes qui ont fait le plein après deux journées, c'est Saint-Etienne et Annecy qui comptent 6 points, et du côté de Nantes, on est tout en bas du classement avec 0 points. Compliqué également pour les Sochaliens qui avaient été battus largement par Saint-Etienne justement la semaine dernière et qui comptent un petit point. On leur souhaite évidemment le meilleur. Messieurs, on va revenir à l'actualité également. Nous sommes à J-2 de PSG-Lens, ça sera le trophée des champions. Le PSG qui va tenter de remporter son deuxième trophée de la semaine. Et du côté de Lens, eh bien, il y a une nouveauté évidemment, c'est Topmöller, le nouvel entraîneur lensois. Et lui, il était aujourd'hui en conférence de presse et il est très ambitieux. Il veut marquer l'histoire du club vainqueur de la Coupe de France. On écoute l'entraîneur.
Je sens le groupe prêt pour le match. Tout le monde a envie d'écrire encore une fois l'histoire pour le club. Je pense que si j'ai des informations correctes, c'est Lens, ils n'ont jamais gagné ce titre. Ça veut dire toutes les joueurs, tout le groupe a vraiment la possibilité de faire encore une grande étape dans l'histoire du club. Mais comme j'ai dit avant, on va jouer contre une top équipe. Mais pour moi, le plus important, il faut montrer qu'on a peur de personne.
On a peur de personne, en tout cas ça va être très compliqué forcément face au PSG qui gagne tout. Topmöller qui a également confirmé que Thauvin serait le capitaine, parce qu'il a dit que c'était toujours Sotoka, mais on sait que Sotoka joue très peu, donc celui qui sera titulaire ça sera Thauvin, et celui qui aura le brassard dans la majorité des matchs ça sera Florent Thauvin, qui est arrivé l'an dernier au club et qui s'est parfaitement acclimaté. Est-ce que le RC Lens peut le faire, ou vous avez du mal à y croire quand on voit que le PSG mange tout, gagne tout?
Oui, le RC Lens peut le faire. Moi j'aime beaucoup cette mentalité assumée décomplexé de Topmöller, qui rejoint ce que fait Lens depuis la saison dernière, à savoir qu'ils sont dans la période la plus magique de leur histoire avec cette deuxième place, cette Coupe de France, et que même si Pierre Sage est parti, même s'il y a des joueurs importants comme Sangari qui sont également partis, ça n'a pas vocation à s'arrêter seulement à la saison 2025-2026, mais de le prolonger sur la saison 2026-2027, et quoi de mieux que de démarrer par un trophée à Bollard face au PSG. Alors bien évidemment, là on parle encore une fois du plus gros défi du football de club. Ça, il n'y a pas de souci, on l'a évoqué hier quand on parlait du PSG. Mais quand tu t'appelles Lens, quand tu sais qu'on est en début de saison, qu'il y a une fenêtre de tir pour aller chercher un trophée, et ben, tu dois le faire. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette idée, cette ambition de Top Müller.
Ouais, si tu dois battre le Paris Saint-Germain, c'est peut-être le moment, hein, tu l'as dit, hein, Paris Saint-Germain.
Ouais, parce que dans 2-3 mois, c'est pas la même histoire.
Une fois que la machine est lancée, c'est plus difficile, ouais. Alors après, t'as juste à regarder le match contre Aston Villa et tu te rends compte que le Paris Saint-Germain est malgré tout prêt, même s'ils n'ont pas surdominé le match, ils ont quand même été présents face à une belle équipe d'Aston Villa. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Moi, j'ai un doute, hein. Je vais être très honnête avec toi. L'été a été très, très mouvementé côté Lens. Déjà, t'as le départ de leur entraîneur Pierre Sage. Je pense que ça risque d'être compliqué sur la saison qui arrive, même si j'aime beaucoup Top Müller. Alors moi, je connais bien Dino parce qu'il est passé par Luxembourg, notamment par Dudelange, avant d'aller à Virton en Belgique et puis derrière de faire la carrière qu'il a fait en tant qu'entraîneur. Je pensais sincèrement pas qu'il arriverait jusqu'à ce niveau-là.
Moi aussi, très sincèrement, j'étais étonné qu'il atterrisse à Lens.
À Lens, mais même du côté de Francfort, hein, parce que c'est un entraîneur qui a bien fonctionné. C'est un entraîneur qui a vu passer Kitike, Marmouche, Pacho, hein, notamment. Pacho. Donc, tu vois, c'est un entraîneur qui est en mesure de pouvoir faire évoluer ses joueurs. Donc, il parlait d'ailleurs du petit Antonio, là, Kylian Antonio. Tu vois, je pense qu'avec Gagnou, je pense qu'ils ont une marge de progression. Avec un entraîneur comme Top Müller, ça peut continuer justement à les faire progresser. Maintenant, le match contre le Paris Saint-Germain, quand tu regardes tous les départs, Malang-Sarr qui était important, Gradit qui est toujours parvenu de blessure. En plus de ça, il y a Haute-Saône-et-Loire qui est apparemment blessé. Alors, il n'a pas voulu trop en dire, Top Müller, si oui ou non
il serait prêt. Il s'est entraîné à part cette semaine, parce qu'effectivement, il avait été blessé lors du match.
Derrière, tu perds Thomasson. Derrière, tu l'as dit, tu perds Sangaré. Enfin, tu pars quand même tes pièces maîtresses de la saison dernière. Et le Paris Saint-Germain, bah, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est l'inverse, ils se renforcent. Donc, je pense que ça va être compliqué. L'avantage pour les Lensois, en effet, c'est de jouer le match à domicile. On sait que c'est une ambiance toujours un peu spéciale et ça va être une belle fête pour les supporters lensois. Je pense qu'ils le méritent. Après, voilà, il reste des joueurs, notamment Thauvin. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé sa conférence de presse. Je trouve qu'on a enfin un Thauvin qui arrive à maturité. Même, il est très à l'aise devant les
caméras.
Donc,
bonne idée qu'il soit capitaine.
C'est le leader. Ouais, suite logique. C'est le leader technique. C'est pareil. Je pensais pas forcément qu'il récupérerait ce niveau, même s'il avait été intéressant du côté de l'Udinese. Mais pour revenir très rapidement à Thauvin, tu sais, moi j'ai toujours le sentiment, je sais pas, il y a un truc qui me dérangeait avec Thauvin, tu sais, très introverti, j'ai l'impression qu'il était mal dans sa peau, ce gamin. Ouais, je te dis la vérité. Et derrière, depuis un certain temps et depuis
Thauvin
qu'il est rentré.
Introverti,
non, mais je te parle vraiment face aux caméras, très méfiant. Et là, je trouve vraiment qu'il a pris énormément d'assurance. Et d'ailleurs, il le mérite, son brassard de capitaine, parce qu'il a fait une saison exceptionnelle. Je le trouve vraiment, je le trouve bien.
Je le trouve souriant, notamment sur les clés tactiques de la rencontre de dimanche. Moi, ça va m'intéresser de voir pour la première fois en compétition ce football fait de verticalité, d'intensité à outrance, dans la lignée de ce qu'on peut voir en Bundesliga, transposé du côté de la Ligue 1 avec Lens et face au PSG. Et moi, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va donner. Lens ne doit pas être dans une approche de soumission, mais dans une approche de conquête, parce qu'en plus le PSG a joué en milieu de semaine contre Aston Villa. Donc encore une fois, il y a un momentum à aller chercher. Et donc j'ai envie de voir comment Lens va se comporter face au PSG.
Après, il y a une chose qui est intéressante, c'est que Pierre Sage a évolué la dernière avec un système de 3 défenseurs et puis surtout avec 2 pistons. Top Müller du côté de Francfort, c'était plus un 4-2-2-2. Enfin, tu vois, il est joué vraiment avec 4 défenseurs. Donc à voir ce que ça va donner. Tu gardes Mathieu Udol, qui est quand même plus un piston qu'un arrière-gauche, même si évidemment il peut jouer arrière-gauche, mais c'est vrai qu'il a surperformé ou performé, ça dépend comment on peut voir la chose, parce qu'il a fait une saison exceptionnelle l'année dernière, en étant piston, notamment avec ses centres et notamment avec ses passes décisives. Ils ont récupéré Abdoulhamid aussi de l'AS Roma, qui a fait une belle deuxième partie de saison,
c'est l'un des noms de la Ligue 1.
Ouais, il était très bon, mais qui est quand même un peu plus un piston. Enfin, en tout cas, à Lens, il a performé en tant que piston droit. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner avec Top Müller. Est-ce qu'il va justement refaire descendre ces deux à gauche et à droite, et il va vraiment les repositionner en tant qu'arrière gauche, arrière droit? Parce que attention, hein, c'est deux postes différents, entre être piston et arrière latéral. Donc voilà, c'est juste la question que je me pose. Est-ce que Top Müller va s'adapter aux joueurs qu'il a, ou est-ce qu'il va justement mettre en place son schéma préférentiel? Et donc, ça voudrait dire que ça va complètement chambouler ce qui avait fonctionné la dernière au Racing Club de Lens. Il va falloir retrouver des automatismes. Il me semble que les 3 matchs de préparation de Lens n'ont pas été exceptionnels. Ils doivent gagner contre Bologne, ils doivent faire match nul contre Charleroi et ils doivent perdre contre Sunderland. Ouais. Donc ils c'est quand même pas 3 cas d'or. Donc voilà, on verra, on aura des indications demain, même si encore une fois le Racing Club de Lens risque d'être performant, parce qu'il y a une cellule recrutement intéressante. Et pour terminer, on parle souvent de Jean-Louis Leca et des bons coups qu'il fait, le retour de Cuisance. très bon choix, qui a bien fonctionné aussi au Hertha Berlin, et de Thorgan Hazard aussi, hein, le frère d'Eden,
formé à Lens d'ailleurs. Bah oui, moi à l'époque quand je faisais la Ligue 2, j'étais là,
à Lens, et qui a fait une belle saison la dernière en Derlecq. Donc voilà, chapeau encore à l'ECA, à voir ce que ça va donner sur une saison, mais il est toujours dans les bons coups, et c'est vraiment un précurseur en matière de recrutement, il est très très bon.
Lens PSG, ça sera évidemment à 20h45 dimanche soir en direct sur RMC. Dans quelques instants, on va parler de l'Olympique de Marseille. La journée a été mouvementée, un match amical face à l'Atlético de Madrid perdu. Genesio qui dit ses vérités en conférence de presse. Balerdi qui est une nouvelle fois pris en grippe. On en parle dans quelques instants. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
Karine Galli.
23h33, vous êtes à l'écoute de RMC en direct du studio Roland Courbis avec Elton Mokolo, avec Maxime Chano, avec vous sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424 et également on vous attend au 32-16 sur RMC. Fab qui nous dit bonsoir tout le monde, et si on parlait des Girondins comparables au Titanic, sauf que quand il a coulé, au moins il y avait de la musique, je pleure ce soir. Fab, il y aura une grande page Girondins demain parce qu'il y aura notamment notre cher David Glusman qui est amoureux viscéralement des Girondins de Bordeaux, mais évidemment on va donner l'information. Alors rien n'est définitif parce que personne n'arrive à statuer, mais en tout cas le CNOSF veut maintenir l'exclusion de Bordeaux des championnats nationaux. Alors les Girondins sont proches de la liquidation judiciaire, mais il y a encore une possibilité de faire appel. Le club possède 15 jours pour saisir le tribunal administratif, donc on n'a toujours pas de décision définitive. Toutes les informations sur rmcsport.fr bien évidemment. Messieurs, on va parler de l'Olympique de Marseille. Il y avait le dernier match amical de l'OM aujourd'hui au Vélodrome, c'était face à l'Atlético de Madrid, défaite 2-1. Pachao a ouvert le score et puis finalement Mendoza et Martine ont donné la victoire aux Madrilènes. Mais la chose importante évidemment, c'est qu'il y a plusieurs choses. Vous savez très bien que Højbjerg était le capitaine pendant les matchs amicaux. Cet après-midi, il jouait et il n'avait plus le capitaine. Pourquoi ? Parce que le Danois a refusé de partir à Newcastle. Donc, c'est Timothy Weah qui a retrouvé le brassard de capitaine à son bras. Et c'est une décision que Bruno Genesio déplore. On écoute l'entraîneur marseillais.
C'est une décision qui m'a été dictée par la direction du club. Si je veux être complètement franc, et je vais l'être, c'est pas une décision que je partage, mais je suis salarié, je dois me soumettre à certaines obligations.
Messieurs, il y a une situation qui est très compliquée. Marseille doit vendre. Pour Højbjerg, on sait que c'est le plus gros salaire du club et que Marseille avait trouvé une porte de sortie. Finalement, il a refusé. Le joueur est totalement dans son droit. Et là, on sent le désarroi de Bruno Genesio qui a dit que c'était un joueur qui avait fait une bonne préparation, qui a été plutôt bon d'ailleurs dans les matchs de préparation, mais ça avait été le cas aussi hein, par le passé. Højbjerg a été un peu en mode montagne russe. Et là, il dit clairement, ben voilà, je suis un employé, je dois me soumettre aux décisions de ma direction, même si je ne les partage pas. C'est franc, mais au niveau de l'ambiance, c'est quand même particulier, alors qu'on est à une semaine de la reprise. Et on rappelle également que le pauvre Balerdi a été une nouvelle fois fautif sur l'égalisation de l'Atlético de Madrid et que derrière ça, à chaque ballon touché, bronca sur l'Argentin. Donc évidemment, pas du tout des bonnes sensations pour essayer de jouer avec un petit peu voilà, de sérénité, de confiance, etc. etc. Qu'est-ce que vous ressortez de cette soirée qui est quand même pas anodine pour l'OM ? Mais
Karine, sérieusement, on va encore repartir sur une nouvelle saison. Où en fait on va rigoler du côté de l'Olympique de Marseille, enfin rigoler jaune, parce que moi je suis tout à fait, mais je suis d'accord avec Bruno Genesio, je fais ce soir, il y a 2-1 peut-être sur le terrain, mais en dehors tu mets un but contre ton camp. Parce que cet été, qu'est-ce qu'on a dit sur Bruno Genesio ? Que c'était une top recrue, et moi je continue de le dire, qui était capable justement d'assainir les vestiaires et justement bah, de reconsidérer, enfin, de remettre en selle les joueurs. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a dit ? Bah, Højbjerg, il a fait plutôt une bonne préparation. C'est une chose, notamment bah, le volet transfert, c'est la réalité d'un club. Mais maintenant, encore une fois, sur le terrain, le champ d'intervention, il est dédié à Bruno Genesio. Le capitana, il est dédié aux vestiaires et à Bruno Genesio. Et là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui on fait de l'interventionnisme et on explique qu'un peu nos génisions c'est ça et c'est ça et rien d'autre. Non, bah moi sincèrement du côté de l'Olympique de Marseille, je fais, en fait les anciens dirigeants, les Benatia et tout, ils peuvent rigoler parce qu'en fait rien ne va changer, ouais, parce que à chaque fois en fait on arrive toujours à se tirer une balle dans le pied avant même le premier match contre Strasbourg. On est où, même sur le symbole qu'est le capitana, où tu dis Højbjerg, ça va.
Non mais ça, Elton, je te coupe parce que ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que si tu veux dégager ton joueur, et ben t'as as tendance à le mettre, lui mettre la pression. Tu connais ce qu'on appelle le loft. Et bien, ça arrive que les dirigeants mettent le joueur au loft.
Non, alors là, Marseille, cette année, a refusé justement de faire un loft. Voilà. L'an dernier, il y a deux ans, ils avaient fait un loft. Donc, là, pour l'instant, il n'y a pas de loft.
Parce que personne n'est gagnant quand on voit un joueur dans le loft. C'est ce qu'ils appellent le loft, c'est-à-dire les joueurs qui veulent être, entre guillemets, libérés par le club, que les joueurs. En tout cas, ça dépend en fait le joueur. Voilà, je vais essayer de remettre dans le contexte. Je veux dire qu'Hojbjerg aujourd'hui c'est un gros salaire. Et on a bien compris que l'OM doit dégraisser. On va pas revenir sur ce qui se passe.
Mais enfin, c'est toujours pas. Il a pas volé son salaire. Après, qu'on lui a donné.
Non, bien sûr, mais bon, c'est l'ancienne direction qui lui a donné. Donc la nouvelle direction, elle a une nouvelle directive, et c'est-à-dire faire des économies. Je pense que Marc Courc a compris qu'il s'est fait enfler depuis ces dernières années,
enfin, il s'est fait enfler,
et que là, il va fermer le robinet, qu'aujourd'hui il est dans une dynamique où est-ce qu'il va essayer de récupérer son argent. Donc je peux comprendre que quand on lui apporte un projet, c'était quand même pas un projet dégueulasse d'aller en première ligue pour un joueur qui a quand même brillé en première ligue pendant un certain temps, qui a quand même fait une saison très très moyenne à l'Olympique de Marseille, lui donner l'opportunité de repartir en première ligue. Attends, c'est presque gagné à l'euro-million pour lui, il faut qu'il y retourne. Enfin, bon, écoute, il a le choix de rester à l'Académie. Non, bah, qui veut pas retourner en première ligue? La réalité, c'est que
il a fait de longues années en première ligue. Voilà, peut-être qu'il a pas envie de ça.
Donc peut-être qu'il préfère alors rester à l'Olympique de Marseille, alors, dans ce contexte-là.
En tout cas, il se sent très bien à Marseille.
Ah bah oui, bon,
on et il a envie visiblement de. En tout cas, il ne veut pas qu'on lui dicte sa destination.
Enfin, attends, non, attention, c'est différent que si on l'envoyait en Turquie ou en Arabie Saoudite.
Oui, mais pour l'instant, l'Atalanta Bergame, il ne voulait pas. Newcastle, il ne voulait pas. L'Arabie Saoudite, il ne voulait pas.
C'est quand même des clubs.
Oui, mais il ne veut pas.
Attention, non, mais bien sûr, en tout cas, quoi qu'il. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Quoi qu'il arrive, il a décidé de rester. Que la direction lui enlève le brassard, lui, c'est petit joueur, mais la réalité, c'est que ça fait partie du foot, ce genre de choses, que la direction rentre un petit peu dans le vestiaire et commence à prendre des directives pour justement mettre les joueurs sous pression, c'est une chose. Par contre, et là, je te rejoins, Elton, c'est que en fait, c'est le Muppet Show, Marseille. Bah, c'est le Muppet Show. C'est parce qu'on pensait que les trois copains, là, McCourt, Benassia, Longoria, on avait atteint le summum. Puis finalement, tu te rends compte qu'avec Lorenzi et Genesio, deux personnages qui étaient censés redonner un petit peu de dynamisme à cette équipe, à ce club, de donner un peu de stabilité et de calme. Et finalement, Genesio, il tire à boulet, sur sa direction.
Enfin, attention, honnêtement, Genesio, il est victime.
Mais il est victime. Il est victime. À toi d'être intelligent, quand même.
On peut pas banaliser le
Genesio
fait
que... pour cette raison. Justement.
Non, mais arrêtons avec ce délire aussi que Genesio est calme. C'est pas un père assis sur le
banc qui vient.
Genesio, il a du caractère aussi. Hein.
C'est le père Fouras, mais il arrive de Lille. C'est quand même une évolution pour lui, l'Olympique de Marseille.
Non,
si en plus il repart à la manière de Deserbi et il éclate en l'air à chaque fois que ça lui va pas, eh ben courage à l'Olympique de Marseille. Là, dans six mois, on se retrouve dans la même situation.
Il était salarié, mais n'empêche que là, on sape son autorité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est perdant. À commencer par l'Olympique de Marseille, qui est encore une fois dans une situation. Ils auraient pu l'éviter. Højbjerg, parce qu'on lui dit on retire le brassard. Timothy Weah, à qui on n'a rien demandé et qui en gros est parachuté en tant que capitaine. Et Bruno Genesio, parce que Bruno Genesio, tu vois, à la direction, ils ont ce genre de décision, mais c'est pas eux qui viennent publiquement derrière pour s'expliquer. C'est Bruno Genesio qui est obligé de prendre des patins. Donc tout le monde est perdant.
Après, Bruno Genesio a décidé de le dire aussi, donc il voulait passer un message, parce qu'il aurait pu dire, c'est une décision.
Il n'était pas obligé de l'expliquer.
S'il dit que, malheureusement, eh bien, il subit cette décision qu'il ne partage pas, c'est un message envoyé à cette direction.
Tu sais très bien que Marseille, Atlético de Madrid, Højbjerg, il n'a pas le brassard. Ça va interpeller les gens.
Bien sûr, mais
pourquoi Højbjerg, il n'a pas le brassard?
Mais on pouvait très bien dire, on fait un brassard tournant, et lors de la première journée, on choisira.
Tu sais très bien que
Genesio a décidé de le dire, de mettre les pieds dans le plat.
Moi, il a totalement raison.
Elton,
je dis pas qu'il a pas.
Non, parce que qui est perdant finalement, c'est l'institution, c'est l'Olympique de Marseille.
C'est eux qui
l'institution, elle a été bafouée toute l'année dernière et
maintenant
elle
décide. Il faut arrêter. Ils ont décidé de faire un CSC, c'est tant pis.
Mais attends, c'était une direction différente. Là, t'as Lorenzi qui arrive pour remettre un peu de calme, qui ramène normalement quelqu'un qui est censé être dans son camp, on est d'accord. Il ramène un entraîneur qui est censé travailler avec lui. Là, à peine arrivé, il se tire déjà dans les pas.
Non, mais là déjà, il ne se tire pas dans les pattes entre Lorenzi et Genesio parce que c'est au-dessus.
Ah bah la direction dans ce cas-là, c'est le président, c'est différent.
Eh ben, oui, les informations, on vous les a déjà expliquées, c'est que Franck McCourt a missionné une agence pour trouver des portes de sortie au plus gros salaire. Ça a été le cas avec Højbjerg, sauf que Højbjerg a décidé de ne pas aller à Newcastle, ce qui a mis en rogne McCourt. Et derrière, il y a une décision qui a été prise du propriétaire et donc Højbjerg se retrouve sanctionné avec cette histoire de brassard. Laurent, tu es un supporter marseillais au 32-16 avec nous sur RMC. Bonsoir Laurent.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Laurent.
Laurent, est-ce que tu as regardé le match amical de cet après-midi?
J'étais au match.
Ah, tu étais au stade. Ok, tu étais au vert.
Je suis descendu. Alors, il y a un truc que pas beaucoup de personnes ont vu, c'est quand Wea sort, il tend le brassard à Højbjerg. Højbjerg le refuse par fierté, et ouais. le brassard se retrouve sur le bras de Mopé.
Laissez parler Laurent.
En fait, il y a rien. Y a, en fait, ça devient un délire. C'est-à-dire que on enlève. Højbjerg ne veut pas partir. Monsieur Macourt, il n'est pas content. Il lui enlève le brassard. Il trouve la meilleure idée de le mettre à Wea. Wea, on sait tout que Sunderland, il vient, il pose 20 millions. Wea, il part.
Ah bah là, c'est la meilleure chose à faire pour le joueur.
On le met à Mopé. Mopé, on va demander à nos copains de Sassuolo ou de je sais pas qui de nous faire une offre. Il va partir. Au bout d'un moment, on a tapé sur Longoria. On a tapé sur Benatia. Aujourd'hui, on nomme un directeur sportif, Lorenzi. On apprend que Macourt, le court-circuit, en mandatant une agence pour vendre les plus gros salaires. Et aujourd'hui, on apprend que la direction décide de qui est le capitaine olympique de Marseille. Ouais, et après, c'est... on va dire quoi? On va dire, ah, c'est la faute des supporters parce qu'ils mettent des paroles, etc., etc. Ah, au bout d'un moment, Macourt, il est gentil, il s'est fait pigeonner 700 millions. Maintenant, Macourt, faut qu'il parte.
Et attention, Macourt, hein, parce que ça peut jouer contre lui un petit peu là, cette saison. Hein. C'est-à-dire que.
Dernier match au Vélodrome, il est sorti à sous escorte policière.
Ouais, non, mais bah, on a bien compris.
Tu dis Macourt, il faut qu'il parte. Mais c'est lui qui sauve le club chaque année en réinjectant des sous.
Je trouve que c'est un peu dur parce que sans Macourt, l'Olympique de Marseille serait peut-être pas là actuellement. Par contre, là où je te rejoins, c'est que finalement, qui a été tenu responsable finalement du fiasco, c'est Benatia Longoria. Aujourd'hui, Macourt, il a tout à gagner.
Et deux Herbiers directement.
Macourt, il a tout à gagner. Excuse-moi, je termine très rapidement, s'il te plaît. Macourt, il a tout à gagner justement à se mettre un petit peu en retrait et à envoyer Lorenzi au feu, parce que si jamais ça se fonctionne bien, exactement ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire que ce qu'on a dit contre deux Herbiers, contre Benatia et Longoria, ça va être affirmé finalement, tu vois. Et alors que là, il est en train de tout contre.
Pour vendre les plus gros salaires.
Là, il a tout courte sur.
Il a tant confiance à Lorenzi. Pourquoi mandater une agence qui court-circuite tout le monde?
Mais bon, t'as bien compris qu'il fait n'importe quoi depuis le début. Ah, mais on parlait de synergie. Et on a vu ce qui s'est passé à Lens, par exemple. Lens a très bien fonctionné parce qu'il y avait une synergie entre le président, et tout ce qui est coordinateur sportif. Ça a bien fonctionné. Ça n'a pas fonctionné du côté de l'Olympique de Marseille l'année dernière. Là, Macourt, il a tout à gagner, en tout cas. Macourt, il a tout à gagner.
Laurent, pas en même temps que Maxime. Tu laisses finir Maxime et après on t'écoute parce qu'on comprend rien.
Macourt, il a tout à gagner à laisser travailler Lorenzi et Genesio dans les meilleures conditions, et ça c'est ce qu'il n'a pas compris. Il a essayé, et ça peut être compréhensible, encore une fois c'est son bébé, il a mis son argent, il a mis énormément d'argent, peut-être que derrière il veut essayer de récupérer, mais à partir du moment que tu as mis un nouveau bonhomme en poste, en l'occurrence Lorenzi, il faut le laisser bosser, parce que là ça devient n'importe quoi, ils sont en train de se tirer dans les pattes, et finalement qui sort gagnant de tout ça, si jamais ça devait être le bordel encore cette année, mais c'est Longoria et Benatia.
Longoria, ils ont quand même échoué aussi.
Mais oui, mais pourquoi? Ça change rien. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Mais on avait un mec au-dessus de nous qui nous court surquitté à chaque fois, il s'appelle Macourt. Regardez,
même avec Lorenzi, c'est pas du tout le cas en fait. Mais Macourt n'a pas du tout court-circuité Longoria, Benatia et Desherbiers.
Là, c'est deux choses différentes.
Ce que je suis en train de te dire, je te dis que si aujourd'hui il intervient de cette manière, ça va jouer en sa défaveur. C'est juste ça.
Laurent, tu étais au Vélodrome cet après-midi. J'ai plusieurs questions. Pour toi, est-ce que tu trouves que c'est bien que Genesio ait dit la vérité et sa déception, que finalement il ne puisse pas faire son choix de capitaine? Et j'aimerais aussi que tu nous racontes ce qui s'est passé avec Balerdi, parce que Balerdi a été pris en grippe une nouvelle fois après sa boulette. Est-ce que aussi, j'ai envie de savoir, tu fais partie des supporters qui l'ont sifflé à partir du moment où il y a eu cette boulette et cette égalisation?
Balerdi, alors aujourd'hui on va pas critiquer, mais aujourd'hui les places en virage, on est sur un public de vacanciers. J'ai rarement vu un joueur de l'OM se faire siffler autant sur un match. Alors on sait qu'il a refusé des offres d'Allemagne. On sait qu'on a besoin d'argent. On sait qu'à chaque match, il va faire un match correct. Et à tout moment, on se dit à quel moment on va arriver la boulette. Là, il se trouve qu'elle arrive assez rapidement. Et sur le deuxième but, il est aussi pour lui. Il a fait 6 ans. Maintenant, il est en fin de cycle. Il faut qu'il parte. Après, de là à chiffler, non, parce qu'au final, on enlève lui pour mettre qui d'autre.
Oui, puis surtout, ça n'aide pas aussi à une vente. Parce que l'idée, c'est d'essayer de trouver une porte de sortie et d'avoir un joueur qui est quand même en tentative de reconquête, de retrouver de la confiance, quelque chose.
Il a surtout une valeur marchande.
Tout le monde connaît ses failles. Balerdi, tout le monde connaît ses failles.
Oui, et puis ça fait longtemps.
Et Balerdi, si on l'enlève pas de son contexte à Marseille, où ça fait 7 ans qu'il est ici, va falloir lui trouver un autre club. Il va falloir qu'il reparte à zéro. Et que, mais à l'OM, pour moi, c'est fini. Mais pourtant, ça reste, malheureusement, ça reste pour nous un des meilleurs défenseurs centraux qu'on a. Quoi.
Elle est là aussi, la réalité.
Parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui, c'était par exemple Balerdi-Kondogbia qui n'est pas un défenseur central et qui se retrouvait en défense. Et la doublette, une nouvelle fois, était prise de vitesse, comme très souvent l'an passé.
Pour revenir sur ta première question.
On a Bamo Meïté qui fait une excellente saison l'année dernière à Lorient.
C'est vrai.
Entre Bamo Meïté et Balerdi, bah, franchement, en termes de salaire. Et
oui, après Laurent, joueur à Lorient et joueur à Marseille, quand t'as 80 000 personnes qui te poussent, potentiellement une pression de dingue.
Et puis t'en as vu un craquer avec la pression du Vélodrome.
Il y en a plein qui craquent, moi je suis d'accord avec vous, mais on est dans une situation. Medina, l'année dernière, c'est son cousin qu'on a.
Oui, pourtant vous l'avez bien vendu le cousin.
Ouais, mais Medina, on l'a vendu alors qu'il a été blessé pendant 4 mois. Il était en surpoids, on l'a vu en préparation en Argentine, il avait perdu 10 kilos.
Ouais, d'ailleurs, j'ai entendu un podcast de lui où il était mort de rire parce que il trouvait ça rigolo que les supporters marseillais aient dit que finalement il avait préparé sa Coupe du Monde à l'Olympique de Marseille et qu'il avait été insulté. Le mec est mort de rire dans un podcast en racontant ça.
Il a préféré relativiser par rapport à ça parce qu'il
comprenait que les supporters marseillais soient en colère après la saison de Medina, ça s'entend. Le joueur a été blessé. Après, il faisait des sorties médiatiques lorsqu'il jouait pas, notamment après le match face à Lorient où il taclait ses coéquipiers. Et il n'a pas du tout, au final, apporté à l'OM alors qu'on espérait qu'il apporte. Et au final, il sort par la grande porte parce que, bon, il y a une plus-value pour Marseille. Mais bon, c'est un passage raté.
C'est un passage anecdotique, fait Medina à l'Olympique de Marseille. Tu n'as pas 5 images. Mais maintenant, pour revenir sur ce que tu disais sur ta première question par rapport à Bruno Genesio, il a tout intérêt à se montrer en tant comme du vestiaire. Parce que s'il se positionne clairement par rapport à la direction, disant que oui, c'est un choix normal, moi je te dis, il y a un cas où il perd son vestiaire. Elle est là, la réalité. Donc là, il dit, je suis salarié, mais en même temps, je suis contraint. Et ça, je peux te dire que pour un vestiaire, c'est très bien.
Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. Dans quelques instants, on va continuer à parler de l'OM, parce qu'il y a Aubameyang également qui a dit ses vérités, lui qui est parti en Liga. Et vous aurez toutes les informations Mercato de ce vendredi. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h50, on est ensemble jusqu'à minuit sur RMC avec Maxime Chano, avec Elton Mokolo, avec vous sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424 et aussi au 32-16. Ça fait beaucoup débat, évidemment, la situation de l'Olympique de Marseille, puisqu'on rappelle que la préparation a plutôt été bonne. Mais aujourd'hui, il s'est passé des choses quand même importantes pour Marseille. La bonne nouvelle aussi, quand même, c'est Pachao qui marque. Ça a été déjà le cas lors des précédents matchs amicaux. Et là, c'était le cas face à l'Atlético. Un mot également, parce que donc, on a appris que le pauvre Højbjerg n'avait plus le brassard. Et on a eu également des nouvelles d'Aubameyang. Vous le savez, il a parlé de son deuxième passage marseillais, qui n'aura donc duré qu'une seule saison. Le joueur de 37 ans a notamment déclaré « Ça a été une saison très, très éprouvante. Le contexte a été assez particulier avec tous les changements qu'il y a eu. Ce n'était pas un environnement sain et stable. Je pense que tout le monde a une part de responsabilité dans cette saison qui n'a pas été réussie. Nous, les joueurs, mais aussi les staffs et la direction, la communication n'a pas forcément fonctionné entre les deux parties. »
Ah mais il a totalement raison. Et d'ailleurs, ce qui est cocasse, c'est que ce passage, cette interview, intervient après celle de Mehdi Benatia. Je te dirais pas que c'est...
On lui a demandé d'ailleurs de réagir au propos de Mehdi Benatia et il a fait du politiquement correct. Oui, il a pas voulu charger l'ancien directeur.
Il a fait du politiquement correct, mais personne n'est dupe. Quand il dit responsabilité collective, il insiste sur la responsabilité collective. Là où t'as Mehdi Benatia qui disait on a failli, mais en même temps, les joueurs, c'était pas bien. Parce que oui, d'ailleurs, ce qu'il dit au Aubameyang, que c'est très intéressant quand il dit que par rapport à l'extérieur, ils n'ont pas réussi à se blinder. C'est vrai que du côté de l'Olympique de Marseille, le seul contre tous, ça n'a pas marché. Parce que dans le seul contre tous, tu as quand même trouvé moyen d'avoir des divisions à l'intérieur même de ton groupe, ce qui ne marchait pas. Et dans le seul contre tous, parfois, tu avais le sentiment que le match de Ligue 1 était moins important que de répondre à Rotten sans flamme. Moi, c'est comme ça que je pense.
Tout à fait, mon cher Elton, je l'avais pas vu venir celle-là, mais pourquoi pas. En tout cas, on attend d'avoir Tu me surprends. On attend évidemment d'avoir de nouvelles réactions de joueurs aussi qui vont quitter l'Olympique de Marseille, puisqu'il y en a déjà pas mal après cette saison ratée. On rappelle que vendredi, c'est la reprise de la Ligue 1 et ça sera face à Strasbourg sur RMC. Premier match de Ligue 1. Messieurs, les informations mercato, alors là, c'est une énorme surprise. Chiro Immobilier, il avait fait toute la préparation avec le Paris FC. Il devait rempiler avec le club parisien. 36 ans. Eh bien, pépère, il a annoncé aujourd'hui que finalement, il prenait sa retraite. Il veut se consacrer à ses proches alors qu'on est à une semaine de la reprise. C'est quand même très particulier.
On croit qu'il n'a pas aimé Rosénior.
Il a fait deux, trois tours de terrain et a dit non, là, c'est terminé. Voilà,
quand il a vu le pressing qu'il lui demandait, il a dit allez, j'ai 36 ans, j'arrête. Ouais, bah, écoute, il a été plus immobile qu'il a été immobilier l'année dernière. Hein, ça a été un super joueur, mais c'est vrai que du côté de Paris FC, ça a été moyen. Écoute, il sera venu, il aura vu à quoi ressemble Paris et puis voilà.
En tout cas, belle carrière.
Champion
d'Europe, souliers d'or. Il est passé par de gros clubs comme Borussia Dortmund, Séville, donc et il a pas triché.
Arsenal qui veut Osimhen, selon le Télégraphe. Arsenal discute avec Fenerbahçe pour le joueur qui a évolué notamment à Naples également. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, une bonne idée pour Arsenal?
C'est une bonne idée parce que le mercato d'Arsenal sur le secteur offensif pour l'instant il est quand même très calme. Il y a eu l'arrivée de Solis, mais Arteta après la finale de Ligue des Champions avait dit que Arsenal avait besoin de se renforcer de manière intelligente et de manière conséquente. Pour l'instant c'était relativement calme et là le fait d'avoir un Osimhen, ce serait pour moi un vrai bon coup.
La somme, a priori, est très élevée, donc ça pourrait bloquer.
Ah bah là, faut envoyer, de toute façon, t'as pas le choix, on arrive fin août.
Des informations concernant le PSG aussi. Alors Ferran Torres, il a été autorisé à se rendre à Paris, donc là il doit être en route. Et il va bientôt signer. C'est pas trop loin. Oui, Barcelone, Paris, ça se fait assez vite en jet privé, pas de souci. Et l'autre bonne nouvelle pour le PSG, c'est l'agent de Götze qui a confirmé que le PSG et l'Ajax finalisaient l'arrivée du joueur. Il y a un accord total qui a été trouvé entre les deux parties. Arrivée prévue en France ce soir ou demain. Donc on ne sait pas s'il est encore arrivé, puisqu'il est encore vendredi, hein, il est 23h55,
ou demain,
il lui reste 5 minutes pour arriver vendredi, sinon ça sera demain. Contrat de 5 ans pour le Belge, on parle d'un montant de 55 millions d'euros, on rappelle. Et ce qui a intéressé aussi le PSG dans l'arrivée de ce joueur, c'est qu'il peut évoluer aux 3 postes de l'attaque. Le PSG qui à la base s'était dit pourquoi pas le mettre dans le groupe face à Lens, mais... il n'en est plus question aujourd'hui. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le PSG d'arriver à enrôler ce jeune joueur.
On a la vision du PSG 2026-2027 avec son trio d'attaquants et son trio de remplaçants, entre guillemets, avec Ferran Torres, Marnès Akliouche et Götze. Ce qui t'amène au prochain débat, les prochains candidats au départ. Je fais référence à Ibrahim Baye et surtout à Bradley Barcola. Mais en tout état de cause, à quelques jours de la reprise de la Ligue 1 face à Rennes, voilà, t'es 6 joueurs pour attaquer ces 4 compétitions.
Plutôt bien équilibré d'ailleurs. Avec vraiment 3 titulaires en force, et puis ça serait 3. Bon, Akliou, je ne sais pas si tu peux le considérer comme jeune joueur, hein, parce qu'il est international français, et puis il a déjà 25 ans de mémoire, mais en tout cas.
24.
Bon, 24, il va
24,
sur ses 25
ans. Là, faut être précis.
On ne le vieillit pas, la
pépite. En tout cas, non, c'est très bien équilibré de la part de Luis Campos et de Luis Enrique dans la manière de recruter. Moi, ça fait un petit peu embouteillage devant, mais bon, encore une fois, hein, t'es sur des profils qui accepteront en tout cas leur rôle de doublure.
Pour préparer les ventes.
Barcola.
Mm-hmm. Barcola et Ibrahim Baye.
Surtout Barcola, c'est quand même un joueur qui jouait beaucoup plus.
Et surtout Barcola. Ouais.
C'est un peu le transfert de l'été. Hein. Enfin, en tout cas, c'est Barcola. Ouais. On va voir ce que ça donne du côté de Liverpool. Mais bon, on s'y rapproche. À mon avis, il ne sera plus parisien d'ici la fin du mercato.
Le fait qu'il ait joué 0 minutes contre Aston Villa te donne
une
bonne indication.
Une tendance effectivement très lourde. Il était sur le banc et il n'est pas entré en jeu. Et messieurs, Lyon qui annonce le prêt d'Atekame, le latéral droit suisse de 21 ans, arrive du Milan. Bonne chose pour les Lyonnais.
Écoute, je connais pas vraiment, mais ce qui m'intéresse, c'est le jeu de chaise musicale, parce que ça implique vraisemblablement un départ sur le court terme de Maitland-Niles. Donc, il y a la volonté du côté de Lyon, toujours de rechercher ces jeunes joueurs susceptibles d'être performants avec Lyon et d'avoir une valeur marchande intéressante pour un éventuel départ. Mais on n'en est pas encore là, on parle d'un prêt.
On vous rappelle les résultats du soir, messieurs, concernant la Ligue 2 Saint-Etienne, donc qui signe un deuxième succès en l'espace de 2 journées. Après cette victoire obtenue face à Clermont, Saint-Etienne est en tête de la Ligue 2. 3-1, la victoire pour les Verts. Et du côté des Nantais, malheureusement, deuxième défaite en autant de matchs. Ça avait mal démarré face aux Red Stars et ils ont été battus ce soir lors des dernières secondes du match face à Laval. Défaite 2-1. Merci beaucoup, messieurs. Belle nuit à tous. Merci. Merci Elton, merci Maxime, merci à Samuel et à Daniel qui étaient aux manettes de l'émission. Et restez à l'écoute d'RMC.
RMC, l'after foot.